France Inter. .fr.
On va pouvoir commencer ? Allons-y !
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
L'Iran de Mossadegh.
D'Iran nous parviennent les images du triomphe éphémère de Mossadegh. Le vieux renard n'aura été le maître de Téhéran que le temps de déboulonner la statue équestre du père du chat. L'action des royalistes appuyés par l'armée retournait en effet très brutalement la situation en faveur du jeune souverain dont l'exil aura été particulièrement bref.
C'était en 1953, le docteur Mossadegh était premier ministre depuis 1951. Son crime, en fait, n'était pas de s'être opposé au jeune Shah, mais d'avoir nationalisé le pétrole. L'objectif était d'obtenir des bénéfices financiers, mais d'abord d'affirmer l'indépendance nationale. C'est pour cela que Mossadegh s'obstina et alla jusqu'à l'affrontement avec des ennemis extérieurs, les Anglais d'abord, les Américains ensuite, redoutables, et avec des adversaires intérieurs que les premiers manipulait. Mossadegh fut vaincu, mais son personnage demeure dans bien des mémoires. Il a fait beaucoup pour l'affirmation de l'Iran. Depuis Mossadegh, l'Iran donne souvent le branle à d'autres pays de la région. Fin 1953, Time faisait de Mossadegh l'homme de l'année. Et à la fin de l'année 2011, Time fait du contestataire arabe l'homme de l'année. Jean-Pierre Filiu, bonjour.
Bonjour.
Jean-Pierre Filiu qui connaît bien cette filiation entre Mossadegh et les mouvements de protestation de toute la région. Vous avez publié il n'y a pas longtemps Les Printemps Arabes. Mais chez Futuropolis, vous êtes essayé un roman graphique sur les relations entre le Moyen-Orient et les États-Unis, dont un des chapitres est consacré à l'Iran en 1951-1953. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs un roman graphique? Et on ne le fait pas tout seul.
Il y a d'abord David B., donc un dessinateur extraordinaire, qui a trouvé dans ce thème donc l'histoire des relations entre l'Amérique et le Moyen-Orient, le terreau d'une collaboration entre nous. Donc, je suis au scénario, j'y collabore. Et donc, on a fait un premier tome qui va effectivement de l'indépendance des États-Unis jusqu'au renversement de Mossadegh, qui est un événement majeur dans le positionnement des États-Unis dans cette région.
On parlera tout à l'heure du portrait qui est fait du Shah, le Shah dont on entendait un écho des difficultés dans le son d'archives qui ouvrait cette émission. Première question sur l'Iran en 1951, ça n'est pas du tout une dynastie mémoriale issue de la Perse la plus antique.
C'est un pays qui, lui, a une tradition multimillénaire. Mais c'est un aventurier qui, il y a au fond quelques décennies, Reza Khan, a imposé une nouvelle dynastie, les Pahlavis.
1921.
Juste son premier héritier qui est à ce moment-là sur la sellette et qui va se prévaloir de cette éternité de la Perse, alors que Mossadegh lui-même, le premier ministre, est en revanche descendant de la précédente dynastie, les Qadjars, qui avait régné sur la Perse pendant les deux siècles précédents.
Alors, il y a un premier ministre, souvent il est lui aussi sur la sellette, il peut être assassiné, on voit des scènes d'assassinats nombreuses dans votre livre, mais il est issu d'un parlement. Il y a un système qui est constitutionnaliste en même temps qu'il est monarchique.
Il faut voir que l'Iran n'a pas cessé d'être agité par des troubles révolutionnaires depuis le début du XXe siècle. Il y a le grand mouvement de 1906 qui impose une constitution à la fois à la monarchie, donc à l'époque c'était les Qadjars, mais aussi aux puissances extérieures. Et les deux puissances qui ont toujours regardé avec beaucoup de velléité d'intervention le pays, c'est la Russie puis l'Union soviétique d'une part et la Grande-Bretagne d'autre part.
Les Américains vont survenir progressivement, À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il s'allie avec les Saoudiens, une véritable histoire d'amour, dites-vous, Jean-Pierre Filieu, qui est lié quand même à la présence du pétrole dans la région. Si l'Iran ne va pas pouvoir échapper à aucun des deux grands conflits mondiaux, c'est peut-être parce que en 1908, les premiers forages pétroliers ont réussi.
Effectivement, mais c'est surtout parce que donc Reza Shah, le père du Shah de la crise de Mossadegh, a des sympathies nazies tout à fait affichées. Et donc, les États-Unis, au moment de l'invasion hitlérienne de l'Union soviétique, s'inquiètent pour l'approvisionnement de leur grand allié en pétrole. Et c'est pour cela que l'Union soviétique, d'une part, la Grande-Bretagne, d'autre part, vont se partager l'Iran pendant le reste du second conflit mondial.
Alors, à la fin du second conflit mondial, la question pétrolière va ressurgir. Les Anglais, ce sont eux qui ont réussi les forages de 1908, ils sont possesseurs d'une très grande compagnie qui est devenue une des cartes majeures, une des dernières grandes cartes majeures de ce qui leur reste d'empire à la fin de la guerre.
Il y a étonnamment une convergence entre les velléités britanniques et les aspirations communistes, parce que les soviétiques voudraient aussi une part du gâteau du pétrole. Ils ne voudraient pas qu'il y ait une forme de nationalisation, ce qui fait que Mossadegh va au fond gêner un peu tout le monde.
Alors Mossadegh devient Premier ministre en 1951 et décide de la nationalisation de la grande compagnie britannique où travaillent quelques 37 000 ouvriers, pas mal de cadres, les ouvriers sont iraniens, les cadres ne sont pas iraniens, la compagnie ne fait pas grand-chose pour paraître travailler au service de l'Iran. Alors voici Mossadegh lui-même, je disais qu'il n'avait pas d'âge, il est peut-être né en 1881. Il aimait écouter les radios étrangères pour savoir ce qu'on pensait de lui. Alors le mieux, c'était encore de leur parler directement.
Auditeur de la radiodiffusion française, le président Mossadegh vous parle.
Chers auditeurs, je suis heureux de recevoir aujourd'hui le représentant de la radiodiffusion française et de transmettre à ses auditeurs le salut du peuple iranien. Il y a quelques années, le mouvement national iranien, inspiré uniquement par l'intérêt public, a entrepris la lutte pour mettre fin définitivement aux entraves apportées depuis plus d'un demi-siècle à notre indépendance et à notre prospérité par l'ancienne Anglo-Iranian Oil Company. Parmi les premiers succès remportés dans cette lutte, il faut citer la nationalisation de l'industrie pétrolière sur tout notre territoire. Après la nationalisation des pétroles, nous avons commencé les réformes indispensables au relèvement économique du pays que nous poursuivrons jusqu'au but fixé. Et je suis certain que l'opinion française, toujours champion des causes justes, nous donnera son appui.
Mossadegh, qui s'exprimait très souvent en français, y compris à ses interlocuteurs anglo-saxons, sans doute pour les narguer. Jean-Pierre Filieu.
Oui, il s'exprimait aussi en français parce que c'était un ancien élève de l'école libre des sciences politiques, donc de ce qui est aujourd'hui Sciences Po, et qui avait aussi étudié en Suisse le droit à Neuchâtel. Il faut voir qu'on dit Mossadegh, mais c'était un surnom. Mossadegh, ça veut dire l'homme de confiance. C'était un titre que l'empereur de l'époque, le Shah de l'époque, lui avait donné parce qu'il, comme inspecteur des finances, jeune fonctionnaire, il avait débrouillé des affaires de corruption particulièrement dangereuse dans l'est du pays. Et du coup, il avait cette réputation de monsieur propre, d'incorruptible.
Dans votre livre, roman graphique avec David Bay, on le voit représenté constamment allongé, en pyjama. C'était en fait un grand tribun qui devait être un fameux comédien et qui mettait en scène sa maladie.
Bon, il n'avait pas une santé formidable, mais il est certain qu'il jouait de ses faiblesses pour contraindre les puissances occidentales à, au fond, lui apporter des marques de respect que, spontanément, elle n'avait aucune envie de lui accorder. Donc, il restait dans son lit, il leur parlait en français, ils étaient debout à côté, et c'était toute une rouerie persane qui se déployait ainsi.
Les forces à l'intérieur sur lesquelles, on est au début de 51, ils pouvaient s'appuyer, qu'est-ce que c'était ?
Il y a d'abord un immense nationalisme persan, iranien donc, qui veut recouvrer ses droits. Mais même ce camp est divisé parce que, au fond, les religieux sont plutôt tentés autour de l'ayatollah Kachani, un moment l'allié de Mossadegh, mais ensuite le suppôt du régime et de la monarchie.
Mais dans un premier temps, ils sont les alliés de Mossadegh, les religieux.
Mais ils vont finalement considérer que le parti de l'ordre est le plus important.
Mais ne brûlons pas les étapes. Les communistes, on est toujours en 51. Les communistes, il n'est pas communiste, Mossadegh.
Les communistes n'étaient pas pour la nationalisation non plus. Les communistes voulaient que l'Union soviétique ait de plus fortes participations dans une compagnie de type Anglo-Iranian Oil Company, qui aurait été la Russian Oil ou que sais-je. Donc ils ne se sont ralliés au fond à Mossadegh que dans un second temps. Donc on voit que ça a été un homme de vision qui a pu, par un acte particulièrement audacieux, créer autour de lui une majorité. Il met comme condition à sa nomination comme Premier ministre la nationalisation effective. Il obtient sur cette base une majorité écrasante.
51 majorité, les Iraniens sont galvanisés par lui. À l'extérieur, les Anglais. D'abord le travailliste Attlee, puis Churchill, le conservateur, va revenir peu après. Ils sont extrêmement déterminés à jouer cette dernière carte qu'ils ont. Et les Américains, dans un premier temps, c'est encore l'administration Truman, jouent plutôt la modération.
Le président Truman est intervenu aujourd'hui personnellement dans le conflit anglo-iranien en adressant deux messages, l'un à M. Attlee, l'autre à M. Mossadegh, premier ministre d'Iran. Dans le message adressé à Téhéran, le président Truman recommanderait instamment l'ouverture de négociations, la nationalisation étant de part et d'autre considérée comme acquise. Il insisterait sur le fait qu'une situation sérieuse existe actuellement en raison du conflit entre l'Iran et la Grande-Bretagne et qu'il importe pour la sécurité mondiale que des négociations aient lieu entre les deux parties.
In Tehran, President Truman's special envoy, Averell Harriman, is received by the Shah.
À Téhéran, le Shah a reçu M. Harriman, envoyé spécial du président Truman, venu en médiateur. Pendant sa visite, des groupes de fanatiques du parti nationaliste extrémiste manifestaient violemment contre la Grande-Bretagne devant l'immeuble de l'ambassade. La démarche de M. Harriman auprès du premier persan, M. Mossadegh, a cependant apporté une certaine détente et l'on recommence à envisager la possibilité d'un accord.
Ah, les actualités cinématographiques françaises qui présentent le parti du vieux renard comme un repère de fanatiques du parti extrémiste nationaliste. Enfin, là, on est mi-51, la tendance est plutôt à la négociation, d'autant que Mossadegh porte la question devant des instances internationales.
Mossadegh est un homme de procédure. C'est un juriste, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères, donc il y croit beaucoup. Mais en même temps, homme de procédure, il n'est pas totalement aveugle et il voit les Britanniques qui essaient d'utiliser leur ambassade pour subvertir son régime. Donc il va au fond leur couper l'herbe sous le pied en rompant les relations diplomatiques avec Londres et en cassant le premier complot contre lui qui était d'émanation britannique.
Mais il refuse tout compromis financier. On aurait pu imaginer, sur le modèle de ce qui s'est fait entre les Américains et les Saoudiens, un partage 50-50.
Effectivement, et c'est la logique américaine. Et c'est ce refus qui va donner des arguments aux faucons. Parce que pour Mossadegh, c'est une question de souveraineté sur laquelle il ne veut pas transiger. Il veut en fait renverser la charge de la preuve. Ce pétrole est iranien et c'est à partir de la reconnaissance de l'iranité de ce pétrole qu'on pourra commencer à discuter.
C'est ce qu'il plaide devant la Cour de justice de la Haye, c'est ce qu'il va plaider. Nous sommes maintenant en octobre 51 devant le Conseil de sécurité.
Le docteur Mossadegh, après avoir ôté aux Anglais leur position dans l'exploitation des pétroles, est arrivé aux États-Unis pour y défendre, entre deux crises cardiaques, la décision iranienne. On sait que les derniers techniciens britanniques ont quitté Abadan. Sur quelle base l'industrie pétrolière reprendra-t-elle ? Problème.
Abadan, la plus grande raffinerie de pétrole du monde, est passée aux mains des Iraniens. Dès le moment où les derniers employés britanniques ont abandonné à contre-cœur, mais dans le calme, la métropole persane de l'or noir.
Avec l'aide du chef du Trust du pétrole, le premier ministre Mossadegh vient de gagner une dure partie. Mais l'Angleterre ne se tient pas pour battue. Elle a porté l'affaire devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui cherche le terrain sur lequel pourrait être repris le dialogue Londres-Téhéran. Pendant ce temps, les premiers évacués de l'anglo-iranienne arrivent à Londres, soldats vaincus de la grande bataille du pétrole.
À Bassora, les techniciens anglais du pétrole chassés d'Iran par l'action du docteur Mossadegh ont engagé des sommes considérables dans la prospection de nouveaux gisements et déjà de nombreux puits ont été forés. Le premier ministre d'Irak a inauguré lui-même les installations. Le gouvernement persan estime que les nappes de pétrole des deux pays communiquent et que les Anglais ont trouvé un moyen habile de récupérer les gisements qu'ils ont dû quitter à Abadan.
Ah, les actualités cinématographiques françaises qui prévoient la prochaine crise cardiaque de Mossadegh. Non, ce qui était prévisible, c'est l'embargo étant décidé par les puissances occidentales, une crise économique en Iran. Les Anglais étant passés, on l'a entendu, de l'autre côté, en Irak, au Koweït.
Et avec déjà la problématique qui deviendra explosive entre Saddam Hussein et le Koweït et l'Iran en 80, 88, 90, qui est celle que le pétrole qu'on pompe à Bassora est-il du pétrole irakien, koweïtien ou iranien? Mais ceci est une autre histoire. Ce qu'on voit effectivement, c'est cet acharnement approuvé alors que les raffineries, l'exploitation continuent à opérer avec des Iraniens qui sont des cadres bien formés. Donc l'embargo veut prouver que l'Iran ne peut rien faire sans l'Occident. On veut punir, mais surtout on ne veut pas créer un précédent. On ne veut pas que Mossadegh devienne un symbole.
L'économie du coup se trouve étranglée, même si on met l'accent sur l'exportation, je sais pas, des tapis ou de la viande sur pied, les commerçants, les bazaris, qui sont très importants, très pieux, souvent proches des religieux, sont mécontents.
Très mécontents, et effectivement, comme toujours, et c'est sans doute là que le clergé, les mollahs, l'ayatollah Kachani, basculent du côté du parti de l'ordre en rendant Mossadegh responsable de tous ces troubles.
Et dites-moi, on a laissé le chat, le jeune chat, en plan. On va entendre un portrait chanté par lui. Alors, vous faites des romans graphiques, vous ne faites pas de chansons, Jean-Pierre Finieu.
On va essayer quand même.
Ah, vous allez vous y mettre aussi?
Oui.
On ne va pas dire avec qui. À l'époque, une grande vedette de cabaret, tout rond, chauve avec des moustaches, c'était Jean Constantin.
C'était un chat, un pacha, plein d'argent, chat persan, si puissant que malgré ses milliards, le pacha, chacha, avait bien le cafard des pépés, des pétroles, il était saturé. Car son rêve, c'était de voir pousser le gazon devant son papa, son palais en toute saison. Mais chaque fois qu'il creux, qu'il creusait des trous-trous, pour trou-trou, pour trou-trou, là il tout, pour trouver un fifi, filet d'eau, du pépé, du pétrole jaillissait aussitôt. Et les sous-sous, les sourciers, les sorciers voulaient tous des mimi sillonnées. Et le papa, le pacha, cha-cha-cha, languissait.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
L'Iran, 52-53, l'affrontement entre Mossadegh et le Shah d'Iran. Quand on lit votre roman graphique et qu'on voit le portrait que David B. dessine du Shah, un jeune homme indécis, hésitant, on se dit 2011, il caricature. Mais quand on entend cette chanson qui date de l'après Mossadegh, 1956, on voit que c'est le même portrait du Shah qui est dessiné. Un jeune homme qui rêve de pépé et qui regarde pousser le gazon.
Et qui, au fond, n'avait pas forcément voulu de cette position éminente, qui en avait hérité sous la pression des alliés pour se débarrasser de son père pro-nazi. Et comme on disait, c'était sa sœur jumelle, Ashraf, qui était l'homme de la famille.
Et alors elle est à Deauville ou sur la Côte d'Azur, et l'administration américaine approche le seul homme de la famille, l'administration américaine. Alors maintenant, on est en 53. Il y a une nouvelle administration américaine. Il y a eu des élections en novembre 52. Il y a un nouveau président début 53.
Ouais. Et c'est rien moins que Dwight Eisenhower. Donc après les démocrates, le républicain. Et donc un militaire, un homme de détermination, un homme qui veut mener la guerre froide avec beaucoup de brutalité. Et puis, il y a les deux frères, Foster Dulles et Allen Dulles, qui contrôlent le département d'État et la CIA et qui vont mettre en place, avec un lointain cousin du président défunt Roosevelt, Kermit Roosevelt dit Kim, une machine infernale contre Mossadegh.
Mener la guerre froide avec brutalité. Attendez, on est en 53, c'est encore l'urge de Staline, même s'il est en train de mourir.
Et la Corée.
Oui, et donc il y a quand même un fort risque pour les États-Unis.
Oui, mais là encore, quelle est la prophétie et qu'est-ce qui la rend réalisée? Ils auraient pu, hein, on l'a vu, traiter avec Mossadegh de nombreuses fois. Ils auraient même pu faire ce que fera le même Eisenhower avec Nasser en 1956, c'est-à-dire se donner le beau rôle face aux Britanniques et aux Français colonialistes. Ils ont préféré aller de l'avant et tout simplement le démolir parce que c'était... ce qui leur paraissait le plus simple.
Le démolir, ça consistait à diviser ses soutiens. Par exemple, à expliquer aux religieux de l'ayatollah Kachani que c'était un homme tout à fait immoral. Ça contribuait à élargir la faille entre ce soutien nécessaire du docteur Mossadegh et le docteur Mossadegh.
Effectivement, mais il y a eu aussi, au-delà de l'Iran, la volonté pour une administration qui est la CIA, qui n'est pas si ancienne à ce moment-là, qu'à moins de 10 ans, de se doter, au fond, d'une expérience en temps réel, d'un immense laboratoire qui sera l'Iran, et de montrer comment on peut renverser un gouvernement démocratique qu'on croit pouvoir tomber entre les mains des communistes. Et ce sera, au fond, la même logique jusqu'au coup d'État contre Allende en 73. Et c'est là que ça se met en place.
Faire tomber un gouvernement démocratique dont les soutiens s'effritent, ça suppose de faire appel au souverain. Alors là, vous décrivez les hésitations du jeune Shah qui n'arrive pas à se décider.
En permanence, il fuit, il ne signe pas, ou quand il signe, il part sans les papiers qu'il a signés. Et quand il a signé, il va à l'étranger. Il n'a jamais été exilé. C'est lui qui part.
Alors, le 15 août 1953, il finit par signer, en effet, un firmement. On va dire ça, c'est mieux qu'un décret, hein, révoque le Premier ministre Mossadegh. Il nomme un général à sa place. Le monsieur qui est chargé d'annoncer la chute de Mossadegh à Mossadegh est arrêté par Mossadegh. Le Shah croit avoir échoué et il fuit.
Exilé volontaire, le Shah d'Iran n'aura attendu que 2 jours à Rome avant de recevoir le télégramme le rappelant dans son pays. Le mouvement royaliste a renversé Mossadegh, le vieux renard. Et l'empereur a pris l'avion pour regagner au plus vite sa capitale.
Pendant la longue traversée, l'empereur de Perse a bien voulu s'entretenir avec ses compagnons de voyage et j'ai pu à plusieurs reprises l'interroger sur les intentions qui l'animaient à son retour dans le pays. D'une part, il m'a déclaré qu'il ne fallait pas croire, à cause de la chute du docteur Mossadegh, que le mouvement national commencé par celui-ci allait être arrêté. Bien au contraire, le gouvernement nommé par moi, me disait le Shah, va poursuivre ce mouvement national. Il va en particulier maintenir la nationalisation du pétrole.
Alors là, j'ai accéléré le mouvement, peut-être j'annonce la fuite du Shah et le voilà déjà qui rentre. Alors il faut que vous nous racontiez les événements qui se sont produits entre sa fuite, elle a en effet lieu le 15 août 1953 et son retour. Il a signé le firmement. Mossadegh a arrêté celui qui avait apporté le firmement. Le décret, le Shah est à Rome et des émeutes se multiplient dans Téhéran.
En effet, parce que sur place, on a le chef d'antenne de la CIA, donc Kim Kermit Roosevelt, qui décide de passer outre. Théoriquement, l'opération est un échec, mais lui, il croit encore. Et sa dernière carte, c'est ce qu'il appelle les émeutes communistes. Donc la CIA va déchaîner des émeutes communistes dans tout le pays, à partir de provocateurs qu'elle a payés, qui vont cibler les bazaris, les religieux, le symbole de la monarchie, et donc susciter un choc profond dans toute la population et permettre dans un second temps des manifestations pro-chat afin de favoriser le retour de celui-ci.
Mais vous y croyez vraiment, l'influence de ces manipulations de la CIA ? Est-ce que vous ne pensez pas, Jean-Pierre Filieu, que la CIA, après coup, pour demander des crédits supplémentaires, a organisé le rôle extraordinaire qu'elle aurait joué ?
Ben, on a, grâce à la présidence Clinton, les documents déclassifiés de cette opération qui s'appelait l'opération Ajax. Il faut savoir que la CIA, comme toute administration qui se respecte ou moins, eh bien, elle doit rendre des comptes. Et il y a eu énormément d'argent qui avait été dépensé, et on le sait sur place par tous les témoignages que beaucoup d'émeutiers étaient recrutés, d'ailleurs souvent dans les bas-fonds de Téhéran, avec différents truands bien connus.
Des agitateurs, l'un d'entre eux s'appelait Sans-Cervelle, oui.
Voilà, qui avait personnalité très haute en couleur, et qui vont complètement retourner. Et là aussi, c'est une première pour les États-Unis d'arriver à mener ce qu'ils appellent des opérations noires. C'est à faire des provocations qu'ils attribuent à leurs ennemis pour retourner la situation en leur faveur.
Le 6 septembre 1953, c'est la date du son qu'on écoutait il y a un instant, le chat est rappelé. Parce que les contre-manifestants monarchistes manipulés, dites-vous, sont devenus les maîtres de la rue. Mossadegh va être arrêté. Et alors, le chat promet qu'on va maintenir la modernisation du pays et la nationalisation du pétrole.
Oui, c'est ce qu'il va appeler, pas tout de suite, hein, ça va lui prendre quelques années pour peaufiner le concept, la révolution blanche. Et donc une modernisation à marche forcée du pays, avec effectivement de grands programmes d'équipement, d'éducation, mais tout cela sans jamais toucher à la relation privilégiée avec les États-Unis et pour cause. Ce qui fait que dès 1963, pour le coup, ce ne sera pas Mossadegh, vu qu'il est jugé et emprisonné, mais un ayatollah du nom de Khomeini qui va s'élever contre ce grand programme.
Oui, parce que la Société
programme.
Nationale des pétroles iraniens promise et réalisée par le Shah, elle confie les opérations en fait à un consortium, 40% seulement pour les Anglais, 40% pour les Américains, qui voient leurs efforts que vous avez bien restitués et dessinés, enfin récompensés, puis 20% pour des divers, dont la France. Mossadegh, arrêté et emprisonné. Alors, il a fui, il s'est constitué prisonnier ensuite pour que les violences ne continuent pas, et son procès a lieu en novembre 1953.
À Téhéran, le docteur Mossadegh joue l'acte capital de sa carrière publique. Devant le tribunal militaire, accusé de crime de lèse-majesté, le vieil homme de 72 ans, que ses crises cardiaques et son pyjama ont rendu célèbre autant que la nationalisation du pétrole iranien, défend cette fois sa propre thèse.
3 ans de prison, le souvenir nous fait penser qu'il a été exécuté. Non, ensuite il s'est retrouvé en résidence surveillée. Vous le décrivez dans votre roman graphique, il est toujours en pyjama.
Il est toujours en pyjama, il cuisine beaucoup. C'est un de ses livres favoris, le Larousse gastronomique, en français dans le texte. Mais jusqu'au bout, il a été d'une grande cohérence, je n'ose pas dire intransigeance. Il a refusé la grâce du chat qui lui proposait de lui épargner les 3 ans de prison. Et donc, il a accepté toutes les conséquences de la justice.
Et il est mort, on ne savait pas exactement son âge, en 1967, et sur sa tombe, un derrick, un baril de pétrole, enfin juste à côté de la tombe, et sur la tombe, un Coran, pas de Larousse gastronomique. La mémoire de Mossadegh, elle n'est pas entretenue par les religieux en Iran, mais elle a beaucoup d'influence. La couverture de Time, fin 53, c'était lui, la couverture de Time, ce sont les contestataire des pays arabes aujourd'hui, qui se réclame peut-être de lui. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, avec Sandrine Laurent et Philippe Duclos à la technique, Franck Olivard, Mérine Moneghetti, Frédéric Martin à la préparation.